J'habitais un petit hôtel. Quand j'ai entendu venant, ça me semblait des entrailles de la terre, une musique et des voix qui m'ont coupé le souffle.
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
À Maurice Ardo.
Une page d'histoire mise en musique. Jukebox, qui a pris ses quartiers d'été, vous propose chaque week-end à 19h une série de rediffusions. Bonsoir à tous. L'exceptionnel était son ordinaire, disait à son sujet son neveu, l'écrivain Maurice Druon. L'homme dont nous allons vous parler ce soir, c'est Joseph Kessel. Devenu à 25 ans un romancier célébré autant que le roi du grand reportage, menant depuis toujours une existence trépidante, l'auteur du Chant des partisans se trouve en 1952 à l'étroit dans sa vie de journaliste-écrivain. C'est alors qu'allait s'ouvrir l'une des périodes les plus fécondes de son existence qui, pendant 3 ans, le verrait arpenter l'Afrique des Grands Lacs, la Birmanie, l'Extrême-Orient ou l'Afghanistan. Dans cette histoire, on croisera un lion, des esclaves, des rubis couleur de sang et des dépouilles de veaux trimballées à flanc des talons. Ce soir, Joseph Kessel, 1953-1956, un fauve en liberté. Contemplons le fauve tandis qu'il dort. Ce jour-là, il s'est assoupi sur son canapé et son sommeil semble peuplé d'aventures périlleuses dans son corps et parcouru de tressaillements. Épaisse crinière grise, mâchoire carrée, lèvres adipeuses, le visage buriné de rides d'océan comme les qualifiera plus tard son ami Georges Walter. Même endormi, la cravate défaite, sa chemise entr'ouverte sur un large poitrail, Kessel est un colosse. Même si son léger ronflement ne dit rien de la voix rauque, légèrement hésitante qui est la sienne quand il s'exprime. Kessel dort, cet après-midi-là, au sortir d'un déjeuner trop arrosé à la vodka, il rêve. Dans sa tête, il trépigne de repartir de nouveau, loin. Lui qui, toute sa vie, n'a cessé de sillonner le monde depuis l'Argentine qu'il a vu naître, les bords de l'Oural où il a passé 3 ans de son enfance, lui, l'engagé volontaire d'à peine 18 ans lors de la Première Guerre mondiale qui avait rejoint les escadrilles de l'aviation, qui ensuite avait parcouru la Sibérie, l'Irlande, la mer de Chine, la Palestine et le désert syrien, l'Amérique du Sud, l'Espagne déchirée, avant de gagner Londres pendant la Seconde Guerre mondiale. Lui, l'éternel baroudeur, n'est pas reparti depuis si longtemps. Son dernier grand reportage de ses voyages qui mêle le danger à la découverte remonte à 1948, 5 ans plus tôt, autrement dit, une éternité. Depuis, rien, Kessel est sevré de voyage. Ce n'est pas l'âge qui l'empêche de repartir. Bien sûr, Jeff, il déteste qu'on l'appelle Joseph, n'est plus tout jeune, ce n'est plus le fringant trentenaire qui éclusait autrefois les cabarets russes de Montmartre où sa rage de vivre et de castagne l'avait fait surnommer Capitaine Fracasse. Désormais, la cinquantaine bien tassée, il est devenu un peu plus calme. Son médecin, toutefois, le met en garde, lui répétant qu'il fume trop, que ça va lui jouer des tours. Et puis, il souffre d'une artérite des membres inférieurs, mais... Pour ça, il y a le Duvadilan, ce médicament qui dilate les artères et que Kessel prend consciencieusement, accompagné d'alcool. Duvadilan, vodka, whisky, fort de ce cocktail, Kessel se sent prêt à repartir à l'assaut du monde. Mais pour aller où? Ce jour-là, sous ses paupières closes, Kessel s'envole.
We'll be right back.
suis dans un avion, je traverse la mer, je ne vais nulle part. Je voudrais être une terre lointaine, le groupe américain de Black Keys pour cet Aeroplane Blues. Cette année 1953, donc, Kessel est un fauve en cage, condamné à voyager en rêve. Il se cherche une destination, n'importe où, pourvu qu'il puisse quitter cette trop calme rue Quentin-Bochard, près des Champs-Élysées. Quelques semaines plus tôt, en couvrant les obsèques du souverain britannique George VI, Jeff avait eu vent de l'existence d'un paradis terrestre où la future Elisabeth II avait pris l'habitude de venir s'émerveiller de la nature et de la faune. Ce paradis, décrit dans la presse britannique, se trouvait au Kenya. Dans le cerveau de Kessel, nourri depuis l'enfance des grands récits de Conrad et de Kipling, l'Afrique de l'Est devient alors une obsession. Il ne pense plus qu'à rejoindre cette partie du continent que seuls quelques richissimes chasseurs anglo-saxons connaissent. Kessel cherche alors des arguments pour convaincre Pierre Lazareff, le patron de François, avec qui il vient de se réconcilier d'une vieille brouille, de l'envoyer courir là-bas. La révolte d'une tribu kényane contre la colonisation britannique, à laquelle les autorités de Londres répondent avec une sanglante sévérité, lui offre l'occasion qu'il attendait. Début mai 1953, son départ est acté. Il faut un jour et une nuit d'avion pour aller de France au Kenya. J'arrivais au Norfolk Hotel de Nairobi vers 4h du matin. Il pleuvait et l'air était moite, gluant. Un boy noir ensommeillé, vêtu d'une longue robe blanche, me fit traverser une cour fortement éclairée, semée d'arbres aux fleurs obscures. Au creux d'une galerie couverte se trouvait ma chambre. Le boy posa ma valise et me laissa. Je ne pensais qu'à dormir, mais j'étouffais sous la moustiquaire et la chambre même m'oppressait avec son écriteau énorme « Surtout, fermez bien votre porte ». Je résolus d'aller respirer dehors. Ainsi débute la piste fauve, recueil remanié des articles consacrés par Kessel à la révolte des Momo et que Kessel publiera à son retour chez Gallimard.
Par le bateau, l'avion, le train, ils sont à Londres, à Pékin. Faut un article phénoménal en première page demain dans le journal. Entre New York, Paris, Moscou, ils vont jouant au casse-cou pour nous offrir les faits divers, ceux du village et de tout l'univers. Les reporters, ce sont des gars, ce sont des gars vraiment, vraiment sympas. Les reporters pour vous, pour moi, sont à l'affût du record de l'exploit. Les reporters sont des champions qui interviewent sans façon clochards et rois sportifs, vedettes ou marajas. Les reporters, ce sont des gars comme ça. Les reporters, ce sont des gars, ce sont des gars vraiment, vraiment sympas. Les reporters pour vous, pour moi, sont à l'affût du record de l'exploit. Les reporters sont des champions qui interviewent sans façon clochards et rois sportifs, vedettes ou marajas. Les reporters, ce sont des gars sympas comme ça.
Henri Villerouge, La marche des reporters, 1966. Ainsi donc, pendant un mois, Kessel, journaliste sympa de François, avait interviewé et enquêté sur la révolte des Mau-Mau, écrivant des dizaines de longs articles qu'il avait câblés à Paris depuis Nairobi. Par la suite, comme prévu, il avait pris la route des Grands Lacs pour un voyage touristique qui devait lui fournir la matière d'un futur roman. En compagnie de sa troisième femme, Michelle O'Brien, une belle brune irlandaise qu'il avait rencontrée à Londres pendant la guerre et à qui il avait promis le plus beau des voyages de noces, voici le couple Kessel parti sur les routes du Kenya, de l'Ouganda et du Rwanda. De la faille prodigieuse de la Rift Valley, l'un des berceaux de l'humanité, au domaine des Maasai ou au lac Victoria, des journées de route en proie aux insolations jusqu'aux rencontres nocturnes en pleine forêt avec d'innocents chasseurs pygmées pointant vers eux leurs flèches empoisonnées, Kessel assouvit sa soif d'aventure. Ce voyage au cœur de l'Afrique sauvage excite son imagination. Puis, le couple prend le chemin du retour vers la réserve d'Amboseli au Kenya, où Kessel, selon ses propres termes, a soudain le sentiment étrange d'être invité au royaume animal. Hey, yep.
L'amour des bêtes sauvages. Il y a dans la bête sauvage une liberté, une puissance, une innocence, une capacité aussi de tendresse pour l'homme qui m'a toujours fasciné et bouleversé. C'est le vieux mythe d'ailleurs de l'alliance de l'homme et de l'animal. J'ai simplement eu la chance de pouvoir orienter quelquefois mes voyages de ce côté et en particulier de vivre, après une enquête sur la révolte des Mau Mau au Kenya, de vivre dans une réserve de bêtes sauvages, là où elles sont protégées, à l'abri, à une époque où, à cause de cette révolte du Mau Mau et parce que la saison n'était pas le tourisme, il n'y avait absolument personne dans la réserve, de sorte que j'ai pu lier amitié avec l'administrateur de ce parc national. Il m'a fait approcher des troupeaux énormes d'éléphants, il m'a fait assister à un combat entre rhinocéros et éléphants, et il m'a raconté l'histoire d'un petit lion qu'il avait trouvé, abandonné par ses parents, qu'il avait ramené à la maison et que sa fille avait élevé, sa fille qui avait alors 6 ans. Là, j'ai eu tout à coup le sentiment qu'il y avait une très belle histoire à raconter, et comme toujours, à moitié authentique, et en même temps imaginaire, puisque dans un roman, il faut bien trouver une action, un conflit, qui relève de l'imagination de l'auteur. Vraiment, ce lever de soleil sur un lac où venaient s'abreuver toutes les bêtes de la création au matin est une des visions les plus merveilleuses qu'un homme puisse emporter avec soi pour la vie entière.
Patricia Carli, Le Lion, 1967. Quant au lion de Kessel, l'évocation de l'amour d'une petite fille pour un fauve, il était donc né un soir dans la demeure de Mr. Taberer, l'administrateur de la réserve, entre whisky glacé, rideaux de coton et murs vert pâle, tandis qu'au loin, les hyènes ricanaient sur les contreforts du Kilimandjaro. Le roman, dès sa publication en 1958, connaîtra un immense succès populaire en France et aux États-Unis. Mais nous n'en sommes pas encore là. Avant d'écrire Le Lion, Kessel et sa femme avaient connu de nombreuses expériences éprouvant la trouille de leur vie face à une tribu cannibale. Des dangers qui lui en avaient rappelé d'autres, comme lors de son précédent voyage sur le continent africain, 20 ans plus tôt, c'était en Abyssinie. Voyage au cours duquel Kessel était parti sur la trace de marchands d'esclaves. Archives, entretien avec Paul Guimard, 1956.
Eh bien, Joseph Kessel, nous en arrivons maintenant au reportage qui vous a laissé sans doute les souvenirs les plus marquants, comme celui aussi d'ailleurs qui a le plus surpris vos lecteurs, dans la mesure même où il leur donnait mauvaise conscience, et celui qui est intitulé « Marché d'esclaves ».
C'est exact. Nous étions chez Manfred, et Manfred, donc, avait parmi ses relations un ancien marchand d'esclaves. Mais lui nous a indiqué un marchand d'esclaves en opération. On m'a amené dans une espèce de corral entouré d'épineux, où étaient parqués une centaine d'êtres humains, épuisés, affamés. Alors le marchand d'esclaves m'a expliqué qu'il les laissait reposer 2 ou 3 jours, qu'il fallait les nourrir parce qu'ils étaient précieux, ils valaient de l'argent, avant de se remettre en route vers la côte de la mer Rouge, d'où on allait les transborder en Arabie, qui était le principal centre d'achat d'esclaves. Alors je lui ai demandé, mais enfin, comment recrutez-vous ces esclaves? Où les trouvez-vous? Comment les chassez-vous? Avec la même simplicité, le même naturel, il m'a dit, eh bien écoutez, demain, justement, je vais envoyer deux de mes chasseurs demain, pour en trouver. Et le lendemain matin, à l'aube, nous sommes partis avec 2 hommes infatigables, à peu près nus, avec un grand poignard dans la ceinture, et qui nous ont menés à une vallée. Et alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'étais reporter, je ne pouvais pas l'empêcher, c'était mon métier, les types nous auraient été gorgés sans un mot si on était intervenus. Un troupeau a été amené par un petit garçon et une petite fille. Ces deux fauves humains ont bondi derrière un buisson, leur ont mis la main sur la bouche, les ont emportés et ils ont rejoint le troupeau. À vrai dire, j'ai pu en racheter un. J'ai payé le prix, mais je n'avais pas assez d'argent pour acheter l'autre et l'autre a été emmené. Celui que j'ai acheté a été emmené par mon frère dans cette vallée et rendu à ses parents.
I was caught and I was brought here from Africa. I'm a slave from a land so far. I was caught and I was brought here from Africa. Well, it was licks like fire from the white slave master. Every day I dug on my knees. Weeks and weeks before we crossed the seas to reach in the West Indies. And then they made me work. Oh yes, I work.
A good Lord, no pay.
I toil and toil and toil and toil so hard each day. I'm dying. Yeah, I'm crying. One day
Somebody said, free the bloody slaves. I was then put out on the street. I got no food, I got no clothes, got no place to sleep.
The Slave par le chanteur Mighty Sparrow, 1962. À la suite de ce reportage en Abyssinie, Kessel avait voulu rejoindre le Yémen, traversant pour cela la mer Rouge sur l'embarcation que lui avait prêtée Henri de Montfred. Pris dans une tempête homérique, l'équipage n'avait dû son salut qu'à une petite voile surnommée la Fortune Carrée et qui avait permis au bateau de rejoindre les côtes yéménites. Kessel, qui n'avait alors que 32 ans, était resté profondément marqué par l'épisode. Mais le danger, toujours, lui avait servi d'aiguillon, lui dont la devise était « viser haut, ne s'attacher à rien ni à personne, enfreindre les normes et vivre jusqu'au délire ».
Je ne suis qu'un voyageur sous le soleil et la pluie. Je ne suis qu'un voyageur et je retourne au pays. Je n'ai plus que mon cheval. Mon cheval et mes habits, des habits qui me vont mal, et je retourne au pays. J'ai couru le monde, mais ma m'a dit que le monde, c'était ma maison. Je ne suis qu'un voyageur qui chemine dans la nuit et je sens battre mon cœur. Je retourne au pays. J'ai quitté ma blonde qui m'a perdu. Va courir le monde si c'est ça ta vie. Je ne suis qu'un voyageur, elle ne m'a jamais écrit, et maintenant moi j'ai peur de retourner au pays.
Le voyageur Henri Salvador sur des paroles de Bernard Michel, 1962. Kessel, lui aussi, a toujours un peu peur de revenir au pays. Et de fait, de retour du Kenya, il ne s'attarde pas en France. D'autant que la métropole, cet automne 1953, est bien morose, chahutée par l'instabilité politique chronique de la 4e République, les grandes grèves du service public et les manifestations barrant les routes de France. Kessel s'occupe. Il termine de rédiger les articles de son périple est-africain pour France Soir, vend les droits de certains de ses livres au cinéma. Mais là encore, il est en quête d'une nouvelle grande aventure. Rien de tel qu'un peu de dépaysement à offrir au lecteur français, mais là encore, il lui faut un prétexte que lui offre en janvier 1955 un vieil ami, Jean Rosenthal, qu'il avait connu à Londres pendant la guerre et qui était devenu intermédiaire en pierres précieuses. Ce jour de janvier, Rosenthal lui place entre les mains un rubis de 20 carats venu tout droit des mines de Mokok, étroite vallée perdue dans la jungle de Haute-Birmanie, une jungle infestée de tigres, de serpents, de guérilleros communistes et de trafiquants d'opium. La pierre, en raison de sa couleur dense, est appelée « sang de pigeon ». Aux yeux fascinés de Kessel, son ami lui dit « J'y pars dans 15 jours, tu m'accompagnes ?» Mais je te préviens, à Mogok, il n'y a aucun confort, pas d'eau courante, on mange ce que l'on peut et c'est très dangereux. Autant de séductions, écrit le biographe Yves Courrière, auquel Jeff succomba sur le champ. Comment résister à l'aventure quand elle vient à domicile vous prendre la main? Kessel, avec sa verve, parvient à convaincre le patron de François que le grand quotidien populaire a impérativement besoin d'un reportage sur le commerce des pierres précieuses vendues place Vendôme. Et voici Kessel, accompagné encore une fois de Michel, le 16 janvier 1955, prenant place à bord d'un Constellation d'Air India qui devait le conduire à Rangoon, via le Caire, Bombay et Calcutta. Ah, j'ai oublié de vous dire une chose. Kessel, l'infatigable voyageur, l'engagé volontaire dans l'aviation pendant la Première Guerre mondiale, l'ami de Mermoz, fasciné par l'aéropostale, avait, depuis son aventure au sein de l'escadrille Sussex, qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'avait emmené survoler la nuit le territoire français pour venir en aide à la résistance, Kessel avait donc depuis développé une peur panique de l'avion. Ainsi, les jours précédant son départ pour la Birmanie, réalisant qu'il allait être trimballé 15 000 km durant au-dessus de 3 continents, il avait un peu perdu de sa superbe. Et après avoir souscrit un monumental contrat d'assurance, juste avant d'embarquer, il avait dompté sa trouille en la noyant au whisky, faisant renouveler sa dose de calmant tout au long du trajet par le personnel de bord. Et hop, à Rangoon.
By the old Moulmein pagoda, looking eastward to the sea, there's a Burma broad a-settin', and I know she thinks of me. For the wind is in the palm trees, and the temple bells, they say, come you back, you British soldier, come you back to Mandalay, come you back to Mandalay. Come you back to Mandalay, where the old flotilla lay. Can't you hear their paddles chunking from Rangoon to Mandalay? On the road to Mandalay, where the flying fishers play, and the dawn comes up like thunder out of China, across the bay. Ship me somewhere east of Suez, where the best is like the worst, where there ain't no 10 commandments and a cat can raise a thirst. 'Cause those crazy bells are calling, and it's there that I would be, by the old Moulmein pagoda, looking lazy at the sea, looking lazy at the sea. Come you back to Mandalay, where the old flotilla lay. Can't you hear their paddles chunking from Rangoon to Mandalay? Oh, Mandalay, where the flying fishes play, and the dawn comes up like thunder.
Frank Sinatra, 1958, On the Road to Mandalay, interprétation jazzy d'une chanson composée au début du siècle d'après un poème de l'une des idoles de Kessel, le britannique Rudyard Kipling, narrant l'amour pour la Birmanie d'un soldat britannique rentré au pays. La route de Mandalay, qu'une fois arrivé à Rangoon, Kessel, sa femme et son ami Diamantaire prirent donc, vu que Mandalay se trouvait précisément entre la capitale birmane et la petite cité de Mogok et ses mines réputées pour ses rubis couleur sang de pigeon unique au monde. Encore avait-il fallu trouver une couverture à Kessel. Hors de question, en effet, de se présenter comme journaliste ou écrivain. Trop dangereux. Ainsi, Kessel était-il devenu officiellement expert en bouddhisme. Et le voilà finalement à Mogok, la cité des pierres précieuses, où l'essentiel des 10 000 habitants s'épuise dans des mines boueuses à extraire ces pierres que d'autres taillent et polissent avant que quelques-uns ne s'occupent de leur commerce. Kessel revient de l'aventure fasciné. « Semaine extraordinaire », écrit Joseph à son frère Georges. « Je tiens un des plus beaux morceaux de ma vie encore entre mes mains ». Impossible de résumer l'impression de plénitude, de charme, d'étonnement perpétuel, de contes chinois, d'aventures, d'irréels et de vrais que je rapporte. Et quelles histoires ! Tout cela, Kessel le résumera pourtant quelques mois plus tard dans un reportage pour François et en roman « La vallée des rubis ». Pour l'heure, ce mois de mars 1955, il se repose quelques heures à Rangoon où il retrouve avec délectation la civilisation, les bains chauds, des whisky glacés au Strand Hotel.
กาลายายาหน่วยยาดิมาหลูยาตางยารายะอคาญะอคาอุเยยังเยหลูมากาลาดากาลาตะมีฤยอยะเจจะกาจอยะเจจะราไว้เป้สงญีซวากงมาอีปิ้วตะเต็มโนฉินญ์หลองยาราเปียงยาราโหยังเนมาโหยังเนมากงมา
Beautiful Town par la chanteuse birmane Ai Mar Mar, née en 1942 et devenue par la suite l'une des plus grandes chanteuses locales, travaillant longtemps pour la radio nationale, avant de devenir une activiste politique opposée à la dictature militaire. La musique qui, lors du séjour de Kessel en Birmanie, retint l'attention de Jeff. Ainsi, à Mogok, la démarche ailée d'une servante, ancienne danseuse sacrée, lui rappelle une autre image, celle d'un spectacle étourdissant offert par la meilleure danseuse de Rangoon, que la virtuosité de son exécution et des jeux de lumière avait soudain changé en rose d'or. « Je n'écoutais plus », écrira Kessel plus tard dans « Témoins parmi les hommes ». Une vision s'imposait à moi avec une force hallucinatoire. C'était à Rangoon, la nuit, une sorte de houle profonde parcourut tout son corps, le bouleversa en torsions, déhanchements, convulsions d'un emportement frénétique et, à la fois, d'une extraordinaire harmonie. Ses pieds, chaussés de cothurnes étincelants et dont le bout seul dépassait du fourreau, frappaient les planches de la scène sur une cadence violente, effrénée, inspirée. Scène réelle ou imaginée, peu importe, dans la vie de Kessel, tout se confond, jour, nuit, rêve ou réalité.
On m'a vu dans le Vercors, sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait briller. J'étais gant de crin, je zère. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique. Voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes. J'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. J'étais pas né. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore. La nuit je mens, je prends des trains à travers.
La nuit je mens, bien plus tard, Alain Bachaum sur un texte composé à l'origine par le parolier Jean Fauque. Quittant la Birmanie, Jeff et Michel avaient poursuivi vers l'est via Bangkok jusqu'à l'autre objectif de leur voyage, Hong Kong et Macao, les deux postes frontières du monde occidental et de la Chine. Mais ce qu'il y découvre sur place n'inspire guère qu'Essel. Il espérait de l'aventure, du danger, mais l'univers interlope des jeux, des drogues et de la contrebande qu'il avait imaginée tendait alors à disparaître. Hong Kong ressemblait plutôt à Wall Street. On n'a jamais fondé de roman sur les péripéties de téléscripteurs et d'employés de bureau en costume trois pièces. Il fallut, là encore, l'aide d'un guide, un jeune chinois, George Chi, pour lui ouvrir les portes des bas-fonds de la ville, notamment dans le quartier de Kowloon City, où, débarrassé de sa cravate qui pouvait vous voir étranglé en un tour de main, Kessel avait arpenté les ruelles sordides, les bordels aux nattes crasseuses où les filles se louaient à l'heure, et l'air vicié des fumeries où l'on pouvait goûter au meilleur opium du monde. l'opium que Kessel avait découvert des décennies plus tôt, l'année de ses 20 ans, à Shanghai. Drogue par messieurs Richard Bordeaux et Daniel Beretta, 1968. La drogue, l'alcool, les addictions, Kessel allait les dernières années de sa vie y perdre beaucoup d'énergie. Mais pour l'heure, cette nuit de mars 1955, dans une fumerie d'opium de Hong Kong, Kessel y avait noué une amitié avec un jeune photographe et caméraman de guerre de retour de Saigon où il avait travaillé pour le service cinématographique des armées, filmant notamment la chute de Dien Bien Phu. Ce jeune homme s'appelle Pierre Schoendorfer et avec lui, Kessel va échafauder son prochain voyage qui restera pour lui le plus marquant. Entre-temps, le retour à Paris est rude. Depuis la Birmanie, Michel multiplie les scènes. Tout est bon pour accabler Jeff. Les visites que celui-ci paye à ses anciennes compagnes, Sonia ou Katia. Sa célébrité et ses exploits d'avant-guerre qu'il ressasse à longueur d'interview. Tout cela plonge Michel dans de terribles accès de rage. Elle aurait tant voulu un enfant dont Kessel ne veut pas entendre parler, lui qui a l'âge d'être grand-père. À la place, voici Kessel qui multiplie les orgies dans les restaurants russes de Paris. Et Michel, que le penchant pour l'alcool de son mari a rendu sévèrement accro à la bouteille, sombre elle-même dans la tristesse et multiplie les scandales. Kessel alors se dit de nouveau qu'il lui faut repartir. Il se met à songer à un retour aux sources, celle de son enfance. Or, les autorités soviétiques lui refusent l'accès à l'Oural de sa jeunesse. Il repense alors au récit que sa vieille nourrice kirghize lui faisait jadis des grandes steppes d'Asie centrale. Mais voilà, la réalité économique a changé, les grands journaux ne financent plus l'envoi de reporters pendant des mois à l'autre bout du globe. Kessel trouve alors un prétexte pour financer son expédition, le tournage d'un film documentaire. pour cela, il convainc le producteur Georges de Borgard et avec le jeune Schoendorfer, ils prennent la route de l'Afghanistan.
Açarı bir bir söyleye Kökle bulay bulay Bunan bir şeylerle ya Güzel avın yavulay Hava şamallı çanga Yanda gir kolum nanga Allah'ın karnı yolda buyuşun Havanım sen yana ay
Enregistré à Ashka, au nord de l'Afghanistan, en 1968, cette Tea House Songs par le chanteur Akpishak. Archive Joseph Kessel, 1968.
Ça a été un coup de foudre. J'ai vu beaucoup de pays et d'aussi beaux. Mais dans l'Afghanistan, il y avait cette beauté physique du pays, la beauté des habitants, surtout des montagnards. Il y avait des habitudes et des coutumes qui datent du Moyen-Âge, les bazars qui sont exactement pareils à ceux qu'a décrit Marco Polo, l'accueil des habitants, du plus riche au plus pauvre, qui pratiquent une hospitalité légendaire, et aussi ce jeu stupéfiant qui est pas au centre de mon livre, mais dont tout dépend, et qui s'appelle le Bouskashi, où des centaines de cavaliers merveilleux sur des bêtes admirables combattent pour rapporter à un but qui s'appelle le cercle de justice la dépouille d'un bouc décapité qui s'arrache les uns aux autres avec des acrobaties prodigieuses. Enfin, tout ça, et puis peut-être des choses qu'on ne peut pas analyser, ont fait que c'est un pays qui, pour moi, est celui où j'ai été le plus à mon aise et en même temps le plus transporté hors de moi-même.
À propos de l'Afghanistan, Olivier Weber écrit « Jamais un voyage n'a mieux convenu aux émotions et aux passions de Jeff. Tout est là, le danger, l'imprévu, les odeurs de l'Orient, des personnages incroyables, la magie des contes, les antiques caravanes, l'amitié et la férocité. » Pourtant, le film que rapportent Kessel, Schoendorfer, Jacques Dupont et Raoul Coutard à la caméra, ce film documentaire « La passe du diable » est un échec. Qu'importe, en Afghanistan, Kessel a trouvé une terre d'élection où il retournera plusieurs fois par la suite, y campant notamment son ultime chef-d'œuvre, son testament, les cavaliers narrant l'épopée sublime de quelques Chopendos, les cavaliers du Bouskashi. Ces années-là, Kessel lèvera le pied, s'occupant de plus en plus de Michelle, sa beautiful darling de 20 ans, sa cadette, cette belle intelligence au grand cœur, originale et farouche, mais qui, sous l'effet de la boisson, se métamorphose trop souvent en furie ordurière. Pour contrer sa descente aux enfers, Jeff l'accompagne en cure de désintoxication dans une clinique d'orthèse au pied des Pyrénées.
Alcoholics Anonymous, la vie c'est beau, pourtant Michel, c'est l'arbre mort sur qui s'acharne un brin de mousse et le désert où l'herbe pousse. La vie à l'âme slave et les colères dociles de l'esclave. C'est une fleur cachée dans un micelle, un grand roman signé Joseph Kessel. Combien de défaites, combien de défis entre l'eau de la fontaine et l'eau de vie. Combien de fêtes, de faux prophètes, le vin au prêtre et l'absinthe au poète. Lorsque ma tendresse t'a déshabité, vois-tu dans l'ivresse enfin la vérité. J'ai le visage de mes voyages, toi l'alcool vagabond ravage ta beauté. Alcoholics Anonymous, la vie c'est grand, pourtant Michel, c'est la violence qui secoue la moindre pousse, chacun pour elle et toi pour tous. La vie à l'âme russe, elle est la voix mineure des chorus, la corde grave de nos violoncelles, un grand remords signé Joseph Kessel. Combien de défaites, combien de défis, entre l'eau de la fontaine et l'eau de vie. Combien de fêtes et de tempêtes, fanfaronnades sourdes des trompettes. Lorsque mes caresses t'ont désenchanté, vois-tu dans l'ivresse enfin la vérité. J'ai le visage de mes voyages, toi l'alcool vagabond naufrage ta beauté.
Vois-tu dans l'ivresse enfin la vérité, j'ai le visage de mes voyages, toi l'alcool vagabond naufrage ta beauté. Michel, Serge Reggiani, 1988. C'est pour soustraire sa bien-aimée au naufrage de l'alcool et aux tentations des cafés parisiens que Kessel, sensibilisé par un voyage aux États-Unis à la naissance des Alcooliques Anonymes, achètera les années suivantes une maison de campagne dans le Vexin, à Avernes, une cinquantaine de kilomètres de Paris. Dans cette longue bâtisse entourée de prairies et de bois, l'écrivain voyageur passera de plus en plus de temps, rédigeant Les Cavaliers. Entouré de Michel, de ses amis et de Mustapha, son vieux chat de gouttière qu'il aimait tant, Jeff cessera peu à peu de voyager, espaçant ses fameux dobrychas, cette vieille tradition russe, bénédiction du voyageur que toute sa vie durant, il avait lancée avant de prendre la route. Dobrychas bogom, que l'heure nous soit favorable et que Dieu nous accompagne. Kessel, désormais, ne voyagera plus que dans sa tête, cessant même, à la toute fin, d'écrire, convoquant ses souvenirs, seul à même d'assouvir sa curiosité pour l'immensité du monde, ses grands hommes, ses héros anonymes, ses anciennes chaleurs accablant les chevaux et le pont des cargos.
Qui peut me dire devient le pays, le paysage, quand le jour touche à cette toute petite fin. Que devient la chaleur, l'ancienne chaleur qui accablait les chevaux et le pont des cargos. Courage, avançons. Un jour arrivera où nous arriverons à voyager léger, léger. Rio, à Rio, dans Rio, la glace épilée. C'était l'été. Bien, c'est bien. C'est l'été. Mais passé. L'été. Que devient la chaleur, l'ancienne chaleur qui accablait les chevaux et le pont des cargos. Courage, avançons. Ce jour arrivera où nous arriverons à voyager.
C'est sur cette très élégante chaleur signée Bertrand Belin que se referme ce numéro de Jukebox. Ce soir 1953-1956, Joseph Kessel, un fauve en liberté. Une émission diffusée pour la première fois le 2 mars 2018. Rendez-vous sur franceculture.fr pour la réécouter, pour la télécharger. À lire, outre les œuvres de Joseph Kessel, la magistrale biographie que lui avait consacrée Yves Courrière, parue chez Pocket et qui avait largement nourri l'écriture de cette émission. Une émission préparée à l'époque avec Cyril Baer, les conseils d'Antoine Vuillose de la discothèque de Radio France. Aux manettes, c'était Delphine Baudet. À la réalisation, Anne Kobila, au micro à Maurice Chardot. À demain, 19h, pour un nouveau quartier d'été de Jukebox. Nous reviendrons aux sources du funk. Thank you.